Bien, bonsoir à tous, à toutes. C'est le dernier cours du soir de ce semestre et nous allons finir avec une figure qui nous est particulièrement chère puisque c'est à la fois celle d'un jésuite et celle de notre pape actuel, le pape François. Et vous allez voir qu'à travers lui, on va pouvoir approfondir une dimension, je dirais que nous n'avons pas négligé ou laissé de côté, mais qu'en tout cas nous n'avons pas assez développé encore pendant ce semestre. Jusqu'ici, nous avons regardé davantage la dimension individuelle, personnelle, de la spiritualité, de la relation du croyant à Dieu. On a parlé de la vie d'oraison, on a parlé de chercher à devenir un saint dans chaque état de vie, on a parlé de combat spirituel, etc. Mais cette relation personnelle, individuelle du croyant à Dieu demande évidemment à être pensée à l'intérieur du mystère de l'Église et de la mission de l'Église, d'annoncer la bonne nouvelle à tout homme. Et donc la spiritualité, puisqu'on fait un cours de théologie de la spiritualité, eh bien la spiritualité ou la vie spirituelle comporte, de manière aussi importante, aussi centrale que cette recherche aimante du visage de Dieu, eh bien la rencontre du visage du frère. Et nous n'avons peut-être pas encore jusqu'à ce soir beaucoup développé cette dimension de la charité fraternelle, de l'amour du prochain, du service des pauvres, de l'annonce de l'évangile à tout homme, etc. Dans le document Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, exhortation apostolique post-synodale que le pape François a écrite, mais il y a un chapitre central, chapitre 4, qui s'appelle la dimension sociale de l'évangélisation. Mais sociale, pas à prendre au sens d'abord des œuvres sociales, même si elles existent, mais au sens de la dimension ecclésiale, communautaire, communionnelle, on pourrait dire. Parce que chercher une sainteté ou une spiritualité personnelle, sans se soucier de la communion avec le frère, des besoins, des attentes, de l'Église, de l'humanité, ne serait pas chrétien, tout simplement. Voilà. Donc c'est cette dimension sociale de l'Évangile, ce mystère même de l'Église et de sa mission, que nous allons peut-être approcher d'un peu plus près ce soir à travers la figure du pape François. Donc je ne ferai pas de présentation biographique du pape François, c'est pas très difficile à trouver. Si vous allez sur le site du Saint-Siège, vous avez une petite biographie de 3 pages, très bien faite. J'en ai apporté un exemplaire si certains veulent la consulter ou la prendre. Je me limite juste à rappeler qu'il est né en 1936, il a fêté ses 80 ans en décembre dernier, à Buenos Aires, en Argentine, et je signale juste qu'il est le premier pape non-européen, premier pape américain, mais aussi le premier pape jésuite, il est entré dans la compagnie en 1958, et il est aussi le premier pape à avoir été ordonné prêtre après le Concile Vatican II, en 1969. Et c'est pas anodin, on va parler pas mal du concile ce soir, parce que c'est vraiment dans ce concile Vatican II que le pape François puise toutes ses racines théologiques et pastorales. Alors vous verrez sur les extraits que je vous ai donnés, la première page c'est le concile, c'est Gaudium et Spes, la deuxième page c'est le pape François, je me suis limitée à un seul texte du pape François, La joie de l'Évangile, donc 2013, exhortation apostolique. Voilà, donc c'était juste l'année le début de son pontificat. Je me suis limitée à ce texte, ni par préférence, ni par paresse, ni par choix arbitraire, mais parce que le pape lui-même dit que ce texte a une valeur programmatique pour son pontificat. Et donc on peut avancer l'hypothèse, qui serait évidemment à valider à partir des documents produits jusqu'à ce jour et puis de ceux qui suivront encore, eh bien, moi je fais l'hypothèse que dans ce texte, Evangelii Gaudium, eh bien, tout est comme pré-contenu. Je vous lis un petit passage au numéro 25. Alors, le pape est tout à fait lucide sur le fait qu'on a beaucoup de papiers aujourd'hui et qu'on les lit peut-être de manière un peu rapide avant de les mettre à la corbeille. Donc il dit ceci. « Je n'ignore pas qu'aujourd'hui, les documents ne provoquent pas le même intérêt qu'à d'autres époques et qu'ils sont vite oubliés. » une exhortation chasse l'autre, une encyclique chasse l'autre, et encore pour peu qu'on l'ait lu la précédente quand la suivante arrive. Cependant, je souligne que ce que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences importantes. Donc il appelle, il insiste, il souligne que vraiment il souhaite que ce texte soit non seulement lu, reçu, mais vraiment, comme il dit, que les communautés fassent en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale, missionnaire, etc. Voilà, donc ça c'est le numéro 25. Et donc les documents ultérieurs, on pense bien sûr à l'encyclique, Laudato Si, ou à Amoris Laetitia, eh bien sont comme déjà annoncés, comme déjà pré-contenus en germe, hein, dans cette première exhortation. Donc ce soir, je voudrais, dans un premier temps, regarder comment ce que dit, et quand je dis « dit », je veux dire aussi « vit », hein, il dit par ses paroles, il dit aussi par ce qu'il est, par ses gestes, hein, comment ce que dit le pape François plonge ses racines dans Vatican II, hein, et tout spécialement dans la constitution pastorale Gaudium et Spes. J'espère que ça nous aidera peut-être à mieux comprendre le pape François, hein, qui souvent nous surprend, nous déloge, nous déroute, nous choque aussi parfois au sein même de l'Église. Hein, on entend beaucoup de personnes qui sont déroutées, ou en tout cas dans l'incompréhension, voire même parfois dans le scandale. Hein. Et donc c'est important de voir que le pape François, s'il a une manière nouvelle de faire, eh bien, il plonge, hein, dans les racines de Vatican II qu'il ne fait que mettre en œuvre. Hein. Voilà. Alors, c'est peut-être le document qui a eu le plus d'influence sur la théologie de François, hein. Gaudium et Spes, c'est le dernier document approuvé par les pères conciliaires le 7 décembre 1965. Alors, je ne sais pas si vous avez lu tout ce texte, hein, magnifique, très très important, un véritable tournant. Deux grandes parties. C'est un texte qui s'efforce de préciser les rapports de l'Église au monde, et pas d'une manière, vous voyez, atemporelle, hors de l'histoire, en soi, mais vraiment les rapports de l'Église avec le monde tel qu'il est au moment où se réunit le Concile. Donc un monde en pleine mutation, un monde nouveau. Et donc le fait de chercher à préciser, à expliciter les rapports de l'Église au monde et la vocation de l'Église dans ce monde, et dans ce monde-là, eh bien c'est un thème nouveau. Vous voyez qu'aucun concile n'avait pris la peine jusqu'alors de vraiment s'interroger d'une manière aussi concrète, aussi circonstanciée, hein, sur les appels de l'Esprit-Saint, sur l'Église, pour le monde de telle ou telle époque. Alors deux grandes parties dans ce texte, hein, assez différentes. Première partie, l'Église et la vocation humaine. Et puis deuxième partie, le chrétien face aux problèmes de ce temps. Hein. Et ce dernier texte du Concile, on pourrait dire, enfin certains commentateurs en tout cas l'ont dit, hein, a laissé le Concile en quelque sorte devant un agenda inachevé. J'aime bien cette expression, vous voyez, un agenda inachevé. Beaucoup de choses ont été dites, proposées, mises en œuvre, mais c'est inachevé, c'est à poursuivre. Hein, depuis 50 ans, ben, l'Église essaye de poursuivre, hein, cette impulsion de Vatican II, et le pape François le fait à sa manière. Une chose qui a été très, très repérable dans tout le concile, mais spécialement dans Gaudium et Spes, on le voit dès l'introduction et la conclusion, c'est les passages que je vous ai mis, numéro 1 et puis les numéros de conclusion. Un point très important, c'est qu'on assiste vraiment à un changement de paradigme théologique. Alors pardon pour le mot un peu barbare, hein. Un changement de modèle théologique, un changement de principe, de fondement, hein, si vous voulez. Et je vais expliquer, hein. Ce changement de paradigme a entraîné lui-même un changement de méthode pastorale. Et ce changement de méthode, eh bien, a conduit lui-même à une mise en lumière nouvelle, hein, dans Gaudium et Spes notamment, de l'option préférentielle de l'Église pour les pauvres. Donc je voudrais développer ces trois points, donc au sujet du Concile, un changement de paradigme, de méthode, et puis une mise en lumière nouvelle de l'option pour les pauvres, et puis ensuite on verra comment le pape François lui-même incarne ces trois points, hein, dans ce qu'il nous dit et dans ce qu'il vit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce changement de paradigme théologique? Ce n'est pas de moi, hein, je m'appuie en particulier sur un livre qui vient juste de paraître, là, il y a un mois, de Juan Carlos Canon, qui s'appelle « La théologie du peuple, les racines théologiques du pape François ». Hein, il met en lumière, il y a un chapitre où il met en lumière ça de manière très, très fine. Donc, changement de paradigme théologique, eh bien, un premier fait qui le montre d'une manière très, très éloquente, hein, c'est que les pères conciliaires, dès le début, hein, dès l'ouverture du concile, ont désapprouvé, rejeté un bon nombre des documents préliminaires qui avaient été prévus. Vous savez, on arrive au concile pour que le travail avance. Il y en a qui ont travaillé avant vous et qui proposent déjà des projets de rédaction sur lesquels les pères vont travailler, amender, corriger, etc. Donc un certain nombre de textes avaient été préparés et les pères conciliaires les ont rejetés. Et le pape Jean XXIII a accueilli cette demande des pères et a donc demandé une remise en chantier. Il y a des schémas qu'on a recommencé entièrement, hein, notamment par rapport à l'Église. Et donc on s'est aperçu, dès l'ouverture du concile, j'aime bien là aussi cette formule hein, qui n'est pas de moi, on s'est aperçu qu'on savait très bien ce qu'on ne voulait pas ou ce qu'on ne voulait plus, même si on ne savait pas encore très clairement ce qu'on voulait. C'est intéressant, hein. On savait en tout cas ce qu'on ne voulait plus. Et qu'est-ce qui était critiqué, plus précisément? Eh bien, c'était justement le caractère intemporel, hein, anhistorique de ces documents. C'était des documents très intéressants, tout à fait justes, il n'y avait aucune erreur dedans, aucune hérésie, bien sûr, hein, mais c'était des documents qui ne tenaient pas compte de l'histoire, de l'avancée du monde, de la situation présente. À titre d'exemple, hein, donc le document préliminaire qui était proposé pour réfléchir sur l'Église et le monde, hein, donc qui a finalement donné Gaudium et Spes, eh bien à l'origine, ce document préliminaire que les pères ont rejeté majoritairement s'intitulait De Ordine Morali Christiano, hein, au sujet de l'ordre de la morale chrétienne. Rien que le titre, vous voyez, on est dans un autre genre que les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps. Hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est vraiment un autre paradigme. De l'ordre de la morale chrétienne, eh bien, c'était un texte qui présentait un ordre objectif, absolu, hein, valable à toute époque, si vous voulez, hein, mais qui ne prenait pas en compte, ou en tout cas pas suffisamment, la réalité des facteurs humains, historiques, subjectifs, hein, et qui restait dans, vous voyez, une présentation de Dieu plus comme quelqu'un qui va condamner le mal. Hein. Alors certains commentateurs parlent d'un éthicisme sans bonté. L'éthicisme, c'est la caricature de l'éthique, si vous voulez. Hein. Une morale sans bonté. Parce que le propre de la bonté, justement, c'est qu'elle va savoir tenir compte de la réalité singulière de la personne devant qui elle se trouve, hein, de chaque situation. Donc le document préliminaire partait d'un paradigme négatif, hein, rappeler l'ordre moral et condamner tout le mal, toutes les erreurs, alors que Gaudium et Spes, donc sur lequel les pères conciliaires vont travailler et refaire entièrement le texte, hein, eh bien part d'un paradigme positif. Hein. Il va valoriser les principes de la dignité, de la responsabilité humaine. Et puis surtout, c'est un paradigme non seulement positif, oui, mais un paradigme historique. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la morale en soi, c'est la morale que l'Église peut annoncer, proposer aux hommes de ce temps. Un temps donc tenant compte, eh ben oui, des réalités culturelles, économiques, historiques, plurielles, hein, diverses. Donc changement de paradigme. Et donc à partir du moment où vous changez de paradigme, hein, vous intégrez l'histoire en fait au point de départ de votre réflexion, eh bien évidemment vous changez aussi de méthode. C'est mon deuxième point. Vous partez, voyez, non plus de la doctrine ou du texte comme tel, de la réflexion, mais vous partez de la situation concrète des sociétés, des personnes. Et c'est ça qu'on voit dans Gaudium et Spes, hein, un document qui va interpréter, qui va scruter, hein, et interpréter à la lumière de l'Évangile, donc ce n'est pas une interprétation interprétation sociologique, c'est vraiment théologique, hein. Mais interpréter à la lumière de l'Évangile les signes des temps. Un document qui parle des signes des temps. Mais ça, c'est tout nouveau. C'est le premier concile qui fait ça. Donc il va chercher quelle est la volonté de Dieu sur les hommes, quels sont les signes de ce dessein de Dieu, de cette volonté de Dieu aujourd'hui. Donc il ne s'agit évidemment pas, voyez, de toucher à la vérité de la doctrine, hein, ni de la relativiser, mais de la réinterpréter à la lumière des signes des temps, hein, qui se laissent reconnaître dans l'histoire. Donc changement de paradigme, changement de méthode, et à travers ce changement de méthode, eh bien, le Concile a pu mettre en lumière d'une manière nouvelle, hein, il n'a pas découvert l'option préférentielle pour les pauvres, ça existe depuis l'Ancien Testament, hein. C'était déjà quelque chose qui était annoncé par les prophètes, c'est au cœur de la prédication de Jésus, donc cet amour de Dieu pour les pauvres et cette nécessité d'être soi-même attentif à la personne du pauvre, mais le Concile a mis en lumière d'une manière nouvelle cet aspect essentiel, central, hein, du message évangélique. Et le pape François va le retraduire, hein, et le préciser encore à sa manière en disant « Je désire une église pauvre pour les pauvres ». Alors on a dit, là aussi ce sont les commentateurs du Concile, hein, qui ont dit que le Gaudium et Spes notamment a remis en lumière cette option préférentielle pour les pauvres, mais ne l'a pas explicité encore. C'est comme une lacune qui a été pointée. Je vous lis l'avis d'un commentateur. « La principale omission du Concile fut l'engagement avec les peuples pauvres, tel que Jean XXIII l'avait demandé, ainsi que la pauvreté de l'Église. » Donc il y avait des germes, si vous voulez, mais on ne peut pas tout faire non plus dans un concile. Donc agenda inachevé. Et donc c'est vraiment dans la droite ligne, alors je ne vais peut-être pas lire, hein, les passages de Gaudium et Spes, mais je vous les ai mis pour illustrer un peu la pertinence de ce que je vous ai dit sur ce changement de paradigme, de méthode, etc. Vous les lirez vous-même si ça vous intéresse. Donc dans la droite ligne de Vatican II et de cet agenda inachevé, eh bien je crois qu'on peut dire que le pape François incarne justement, hein, dans sa personne, dans ses paroles, dans ses gestes forts, eh bien ce changement de paradigme, ce changement de méthode, et puis cette mise en pleine lumière, hein, d'une manière d'ailleurs approfondie, hein, il ne fait pas qu'incarner en répétant, mais il approfondit cette mise en lumière de ce contenu évangélique fondamental, hein, qui est l'amour du pauvre. Donc changement de paradigme, donc, que le Concile a opéré, hein, en intégrant l'histoire et l'attention au signe des temps dans sa réflexion, eh bien le pape François en est vraiment, alors là pour le coup, l'incarnation vivante, hein, changement de paradigme. Dans son entretien, je vous ai mis des citations un peu pour ponctuer chacune des trois points qu'on va voir. « Je rêve d'une église mère et pasteur », c'est une citation de l'entretien qu'il a eu avec le jésuite qui est responsable d'un grand journal catholique italien, et donc qui a été publié dans un livre qui s'appelle « L'église que j'espère ». Donc c'est un livre d'interview. « Je rêve d'une église mère et pasteur ». Ça, c'est un changement de paradigme. Pourquoi ? Parce que la mère et le pasteur, c'est vraiment deux illustrations de la prise en compte de l'histoire. Vous voyez, vous n'êtes pas mère en soi. Vous n'êtes pas mère en dehors de l'histoire. Vous êtes mère de quelqu'un qui naît à tel moment. La mère, c'est vraiment par excellence la prise en compte de la personne concrète, hein, de l'enfant à naître, de l'enfant qu'il faut porter, accompagner dans ses premiers pas, veiller dans sa croissance, etc. Il n'y a pas de mère en soi. C'est l'expérience la plus mobilisante, la plus concrète et la plus historique qui soit. Et l'image du pasteur prolonge aussi ça. On n'est pas pasteur à distance. On est, comme dit le pape François, on est pasteur en vivant au milieu du troupeau. Alors aujourd'hui, on arrive à être pasteur à distance, hein. On a des machines pour tout, etc. Mais le pasteur, regardez dans la Bible, ou regardez vraiment les vrais pasteurs, hein, il y en a encore quelques-uns dans les campagnes, hein. Le pasteur, c'est pas un pasteur à distance, quoi. Il est au milieu des brebis, hein. Il a l'odeur des brebis, comme dit le pape François. Bah oui, il vit avec elles, hein. Il marche avec elles. Donc ça, c'est une image biblique essentielle, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Le pasteur, il ne va pas seulement conduire un troupeau, hein, mais comme dit Jésus, hein, dans l'évangile de Jean, il connaît chaque brebis par son nom. Hein, il les appelle, il les fait sortir, il les connaît par son nom et elles le suivent. Mais pensez aussi à Ézéchiel 34, hein, où on voit les soins personnalisés de Dieu qui lui-même se présente comme pasteur, hein, et qui va prodiguer à chaque brebis ce qu'il lui faut. Hein. Celle qui est perdue, je la chercherai. Celle qui est malade, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Oui. Donc un soin attentif sur chacune, et pas seulement une conduite de masse. Hein. Donc le pasteur, il vit avec ses brebis. Hein. Il connaît chacune. Il a aussi encore d'autres caractéristiques. Hein. Il fait l'unité du troupeau. Hein. C'est lui qui rassemble, c'est lui qui conduit. C'est lui aussi qui connaît le chemin à prendre pour aller au gras pâturage, là où il veut aller. Et il fait le chemin avec. Ah, il faut faire le chemin, hein, transhumance, etc. Ça prend du temps. Donc vraiment, vous voyez, une prise en compte de l'histoire, de la singularité des personnes, hein, de chaque membre de l'Église ou de l'humanité, et puis prise en compte aussi du temps. Il y a une mère, elle a beau aimer, c'est pas l'amour qu'elle a pour son enfant qui fait qu'il va grandir plus vite. On peut pas faire l'économie du temps. La maternité, la grossesse, on peut pas changer la durée, on peut pas crier plus fort pour qu'il apprenne à marcher plus vite, ça sert à rien. On ne fait pas l'économie du temps. Voilà, changement de paradigme. Alors pour comprendre comment le pape François a intégré ce changement de paradigme dans son propre gouvernement pastoral, hein, ben je crois qu'il faut revenir aux quatre principes qu'il réénonce régulièrement, hein, et qui sont, je crois, vraiment une clé de compréhension essentielle de son pontificat, de son discernement pastoral. Ah, il les présente en particulier donc dans Evangelii Gaudium, hein, presque une vingtaine de numéros, 221 à 237. Et je vous les ai juste rappelés, enfin énumérés en deux lignes, hein, sur la feuille de route. Donc le temps est supérieur à l'espace. L'unité prévaut sur le conflit. La réalité est supérieure à l'idée. Et le tout est supérieur à la partie. Je vais un peu vite, mais vous les avez sous les yeux. Hein. Et donc dans Evangelii Gaudium, eh bien, le pape présente ces quatre principes comme un apport, quelque chose qu'il a élaboré à partir de la pensée sociale chrétienne pour la construction d'un peuple, pas seulement l'Église, c'est quelque chose qui est valable pour toute société, pour tout peuple du monde, mais évidemment aussi pour le peuple de Dieu. Et il utilisait déjà ces principes, vous voyez, c'est pas tout d'un coup quand il est devenu pape, il a eu une inspiration de l'Esprit Saint en disant « Ah voilà, quatre principes extraordinaires ». Non, il les utilisait déjà quand il était provincial des Jésuites, et puis plus tard archevêque de Buenos Aires. Donc on sait par exemple qu'en 1974, donc à une congrégation provinciale de la Compagnie de Jésus, il parlait déjà, hein, de ces principes comme des priorités de gouvernement. Voilà. Vous voyez, c'est ancien, 1974. Et lui-même ne les a pas inventés, figurez-vous. Il semble qu'il ait trouvé ces principes, à peu près tels quels, hein, dans une lettre que Juan Manuel de Rosas, qui était gouverneur de Buenos Aires en 1830 et quelques, hein, donc vous voyez, 19e siècle, a écrit au gouverneur d'une autre région d'Argentine. Donc c'est vraiment un gouverneur qui écrit à un gouverneur. Et le pape reprend ses principes, vous voyez, comme à la base d'un gouvernement ecclésial, hein, du peuple de Dieu. Et il les propose vraiment, il dit ça donc au numéro 221, « Je désire proposer maintenant ces quatre principes qui oriente spécifiquement le développement de la cohabitation sociale et la construction d'un peuple, où les différences s'harmonisent dans un projet commun, je le fais avec la conviction que leur application peut être un authentique chemin vers la paix dans chaque nation et dans le monde entier. Et donc, vous voyez, ce n'est pas des petits principes accessoires. Hein. Donc, je vous dis quelques mots sur chacun. Le temps est supérieur à l'espace. Je commence par vous citer le pape lui-même, numéro 223. Ce principe permet de travailler à long terme, sans être obsédé par des résultats immédiats. Il aide à supporter avec patience les situations difficiles et adverses, ou les changements des plans qu'impose le dynamisme de la réalité. Un des péchés qui parfois se rencontre dans l'activité sociopolitique consiste à privilégier les espaces de pouvoir plutôt que les temps des processus. Donner la priorité à l'espace conduit à devenir fou pour tout résoudre dans le moment présent, pour tenter de prendre possession de tous les espaces de pouvoir et d'auto-affirmation. C'est cristalliser les processus et prétendre les détenir. Donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les transforme en maillons d'une chaîne en constante croissance, sans chemin de retour. Vous voyez donc, au moins deux domaines dans lesquels s'applique ce principe de la prise en compte du temps supérieur à l'espace, eh bien, et ça revient tout le temps, en permanence, aussi bien dans les homélies que dans les textes, c'est regarder l'Église, regarder l'humanité, regarder chaque homme, comme en marche, en croissance, dans une dynamique. La vie humaine, c'est une croissance. C'est vrai au niveau spirituel, mais c'est vrai déjà au niveau biologique. Tout n'est pas parfait tout de suite. Rien n'est figé, tout est en mouvement dans la vie. Et donc, vous voyez, c'est un principe, je crois, qui est très, très lié à la vertu d'espérance. C'est regarder l'autre comme capable de croissance. Donc, ne pas l'enfermer dans ce qu'il est, mais toujours regarder ce qu'il peut devenir. Et puis prendre en compte que ce qu'il peut devenir, ça se fera à son rythme, ça demande du temps, etc. Et puis deuxième domaine où s'applique ce principe, c'est vraiment au plan de la décision, au plan du gouvernement. Je pense que les jésuites qui sont présents ici ne vont pas me contredire. Je crois que c'est vraiment un aspect typique du discernement ignatien. Prendre le temps de la réflexion, de la prière. Dans les entretiens qu'il accorde, le pape François dit souvent qu'il n'aime pas répondre. Alors maintenant, il s'est un petit peu aguerri. Mais au tout début, il disait, il n'aime pas répondre comme ça du tac au tac. Il dit, la bonne réponse, la bonne décision me vient souvent dans un deuxième temps. Voilà, savoir attendre avant de décider. Deuxième principe, l'unité prévaut sur le conflit. Là encore, deux écueils à éviter. Alors soit on se focalise sur le conflit, finalement on est emprisonné par lui parce qu'on fait de sa résolution la condition du progrès, la clé du progrès. Soit on ignore le conflit, vous voyez, on s'aveugle, on refuse de le regarder. Et le pape dit, mais non, il y a une troisième voie possible. Vous lirez au numéro 227 du document, et les numéros suivants. Il y a une troisième voie, la mieux adaptée, de se situer face à un conflit. C'est d'accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d'un nouveau processus. Bienheureux les artisans de paix. De cette manière, il est possible de développer une communion dans les différences que seules peuvent faciliter ces personnes nobles qui ont le courage d'aller au-delà de la surface du conflit et regardent les autres dans leur dignité la plus profonde. je passe là-dessus. Troisième principe, la réalité est plus importante que l'idée. Donc ça aussi, quelque chose qui revient constamment. Bien sûr, l'idée est importante, hein, c'est elle qui permet de faire des projets, etc. Mais l'idée n'existe, hein, l'idée, l'idéa, hein, ce que je porte dans mon intelligence, hein, n'existe qu'en fonction de la réalité et ne peut pas s'en séparer. Ou alors, ça devient de l'idéalisme. C'est ça l'idéalisme. Hein. C'est quelque chose qui est coupé en fait du réel. Le pape dit ceci au numéro 232, l'idée déconnectée de la réalité est à l'origine des idéalismes et des nominalismes inefficaces qui au mieux classifient et définissent, mais n'impliquent pas. Ah oui, tant que je reste dans le projet, je ne suis pas impliqué, je ne suis pas engagé dans la réalité. Je continue, la réalité est, tout simplement, l'idée s'élabore. Entre les deux, il faut instaurer un dialogue permanent en évitant que l'idée finisse par être séparée de la réalité. Donc vous voyez, ça revient là aussi hein, d'une manière constante dans les gestes qu'il pose. Il fait ce qu'il dit tout le temps. Il vit ce qu'il dit. Donc l'idée qu'il propose à l'Église n'a de force, de pertinence, c'est pour ça que c'est percutant, c'est parce qu'il le vit. Quand il parle de l'amour du pauvre, ben les gestes qu'il pose sont plus éloquents encore que ses discours, par exemple. Et puis enfin, le tout est supérieur à la partie. Donc ce principe a lui aussi, je crois, au moins deux champs d'action privilégiés hein, chez le pape François. Le tout est supérieur à la partie, et eh bien d'abord, il respecte la diversité comme nécessaire à une vraie unité. Souvent, on a peur de la diversité, parce que la diversité, évidemment, implique la différence, et la différence fait peur. Eh bien, le pape propose un autre regard sur la différence. La diversité comme nécessaire à la vraie unité. Alors, il donne un exemple dans Evangelii Gaudium. Il dit que l'unité n'est pas exprimée correctement par l'image de la sphère, parce que dans une sphère, tout est lisse, tout est gommé, hein, il n'y a plus d'aspérité, il n'y a plus de diversité, pour les coups. Tous les points sont à la même distance du centre, tout est lisse. Hein. Et il préfère à cette image de la sphère l'image du polyèdre. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de géométrie, vous voyez ce que c'est un polyèdre. Ça ressemble un peu à une sphère, mais vous avez plein de facettes, si vous voulez. Hein. Et donc ça, pour lui, c'est l'image de l'unité, de la communauté au grand sens, c'est-à-dire que chacun n'est pas gommé par l'unité, mais au contraire est révélé dans sa personnalité. Le tout est supérieur à la partie, mais la partie se révèle pleinement dans sa beauté, dans sa noblesse, dans sa vocation, à l'intérieur du tout. C'est ça le mystère de l'Église, hein. Au numéro 236, il dit « Le polyèdre reflète les confluences de tous les éléments partiels qui conservent en lui leur originalité. » Vous voyez, une petite parcelle de rien du tout, bah c'est pas grand-chose. Mais elle manque à l'ensemble. Hein, il faut toutes les facettes pour que le polyèdre soit harmonieux. Mais les facettes ne sont pas gommées. Elles trouvent au contraire leur place hein, dans le tout. Donc voilà, application de ce principe, je crois, dans sa vision sur l'Église et sa vision de la communion. Et puis, autre lieu d'application, très différent, hein, le fait qu'on doit veiller à présenter l'intégralité du message évangélique et ne pas se focaliser sur une de ses parties. Alors, vous avez au moins 5 numéros là-dessus, dans Evangelii Gaudium, hein, numéro 34 à 39, je crois, et je vous en ai mis un petit morceau sur la feuille de route, donc on peut lire le numéro 34. Si nous entendons tout mettre en termes missionnaires, cela vaut aussi pour la façon de communiquer le message. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la rapidité des communications et la sélection selon l'intérêt des contenus opérés par les médias, le message que nous annonçons court plus que jamais le risque d'apparaître mutilé est réduit à quelques-uns de ses aspects secondaires. Il en ressort que certaines questions qui font partie de l'enseignement moral de l'Église demeurent en dehors du contexte qui leur donne sens. Une pastorale en termes missionnaires n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on essaie d'imposer à force d'insister. Quand on assume un objectif pastoral et un style missionnaire, l'annonce se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire. La proposition se simplifie, sans perdre pour cela profondeur et vérité, et devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse. Et donc dans les numéros qui suivent, je ne pouvais pas tout mettre, mais le pape explique que, évidemment, toutes les vérités révélées sont importantes, mais que certaines sont vraiment le cœur du message évangélique et que d'autres leur sont relatives et en découlent. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais on ne peut pas les présenter coupées du cœur du message évangélique. Parce que ça, c'est peut-être la source majeure de la vision que la plupart de nos contemporains se font de l'Église, qui ne reçoivent de l'Église qu'une petite partie de son message. L'Église interdit ceci, l'Église condamne cela, l'Église... Donc on réduit finalement le message évangélique à un aspect de la morale de l'Église qui est important, mais qui ne peut être compris pour ce qu'il est, positivement dans sa beauté, dans sa grandeur, dans son exigence, qu'à l'intérieur de l'annonce essentielle qui est « Dieu t'aime, le Christ t'a sauvé, tu as du prix à ses yeux », etc. Vous voyez, donc ne pas relativiser la vérité, l'enseignement moral de l'Église, jamais. Mais ne pas non plus le présenter comme coupé du reste ou comme disproportionné de telle sorte qu'on pense que c'est ça, le message de l'Évangile. Parce qu'alors on dessert aussi bien l'Évangile que le message moral qu'on est en train de transmettre. Donc il y a un ordre, il y a une hiérarchie dans les vérités révélées. Et il faut veiller, donc ça c'est, il fait des exhortations fortes aux évêques, aux prêtres, à accentuer dans le monde d'aujourd'hui qui n'est plus chrétien le cœur du message évangélique et à toujours subordonner l'enseignement des autres vérités de la foi, en particulier la morale, au cœur de ce message évangélique. Bon, mais là il y aura vraiment 5 numéros assez longs à lire, donc si vous êtes intéressé par cette question là sachez que vous les avez dans le texte. Donc vous voyez, ça c'était d'abord pour expliquer ce changement de paradigme initié par le Concile et incarné par le pape François, et donc changement de paradigme qui entraîne un changement de méthode, dit le Concile. Chez le pape François, on va plus parler d'un changement de style. C'est son langage, il parle constamment de style. J'ai peut-être au moins 20 fois ou 25 fois le mot style dans Evangelii Gaudium. Changement de style. Ben oui, si vous adoptez un paradigme historique prenant en compte la primauté de la réalité sur l'idée, du temps sur l'espace, du tout sur la partie, etc., et ben le style va changer. Donc ça c'est important, parce que je crois que le pape François n'entend pas apporter spécialement de nouveautés, voyez, quant à la doctrine. Il peut en apporter, bien sûr, de donner des approfondissements, mais je crois que ce qu'il donne à l'Église d'aujourd'hui, ce n'est pas d'abord une nouveauté de doctrine, c'est une nouveauté de méthode. Méthode en grec, méthodos, c'est le chemin. Une nouveauté de style. Ce qu'il promeut, c'est un nouveau style de vie, qu'il soit personnel, ecclésial. Et ce style de vie, eh bien, c'est une conversion de nos manières d'être. Il le dit donc dans l'entretien que je vous ai cité, vous avez la phrase « La première réforme doit être celle de la manière d'être. » Ben, c'est ça la méthode, la manière d'être, le style. Et ce style, eh bien, ce style de vie de l'Évangile, comme il dit, style de vie de l'Évangile, eh bien, il implique une priorité qu'on retrouve partout, c'est prendre soin de la fragilité. Alors, on le voit dans Evangelii Gaudium, à propos de tous les passages sur le pauvre, le petit, le blessé, etc. Mais on le voit aussi dans l'encyclique Laudato aussi, prendre soin de la fragilité de la création tout entière. Et puis on le voit dans Amoris Laetitia, prendre soin de la fragilité de l'amour humain. Mais c'est toujours le même principe. Prendre soin de la fragilité. Ça, c'est un nouveau style. Enfin, nouveau. Rien n'est nouveau par rapport à l'Évangile. Hein. Mais c'est nous ramener à cette nouveauté, à cette saveur initiale de l'Évangile. Et pour le pape François, donc ce style de vie de l'Évangile, eh bien, c'est un style qui est souvent à contre-courant de tous les styles que nous propose le monde. Il dit par exemple, hein, je ne vous donne pas tous les numéros, mais il parle à propos de ce que nous propose le monde, d'un style de vie qui exclut les autres, un style individualiste propre aux païens, un style de vie hégémonique lié à un mode de production. Vous voyez, autant de fois où le mot style revient. À l'inverse, il parle aussi de style marial. C'est pas seulement le style de l'Évangile, il y a aussi un style marial. Si Jésus nous a laissé sa mère comme notre mère à la croix, s'il a voulu faire don à son Église de l'icône de la femme, c'est parce que Marie est celle qui s'est transformée une grotte pour des animaux en maison de Jésus, avec de pauvres langes et une montagne de tendresse. Numéro 286. Chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts, qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. Et un style marial, la douceur et la tendresse. Alors Juan Carlos Canon, dans son livre La théologie du peuple, dit que ce changement de style pastoral entraîne de manière plus générale encore un changement de climat spirituel dans l'Église. Il y a le style du pape, et puis il y a le climat spirituel qui rayonne, qui s'empare de l'Église. Je vous lis un passage de cet auteur. De même que la réalité est supérieure à l'idée, je pense que, en plus des idées nouvelles apportées par le pape François à la papauté et dont j'ai parlé, il y a quelque chose de plus important encore qui est apporté par la réalité de sa personne et de son charisme. Une transformation radicale du climat spirituel dans l'Église, mais aussi hors d'elle. Avec Ricoeur, j'estime que l'histoire, y compris celle de l'Église et de sa relation avec le monde, et dans ces dernières années avec la papauté de François, peut être interprétée comme un texte. Imaginez que l'histoire est un texte. Or, selon Ricoeur, fait partie du signifié d'un texte, non seulement ce qui se dit en lui, ce qui est écrit, mais aussi le moment pragmatique du comment cela se dit, avec quelle attitude existentielle et dans quel climat spirituel cela est exprimé. Vous voyez, vous pouvez écrire la même chose, c'est pas du tout reçu pareil, selon le visage que vous faites en donnant le texte, selon le moment auquel vous le proclamez, selon les personnes, voilà. Donc avec quelle attitude existentielle, dans quel climat spirituel cela est exprimé, quelle tonalité affective, quelle manière de vivre l'accompagne. Eh bien, le temps de l'actuel pontificat me paraît refléter un nouveau climat spirituel dans l'Église, tant dans les interventions du pape que dans les réponses créatrices du peuple fidèle. Ce climat spirituel apparaît clairement dans la réitération textuelle et vécue de leitmotiv comme la joie de l'Évangile, la révolution de la tendresse, la culture de la rencontre. Et ces leitmotivs s'opposent aux attitudes de découragement, de désenchantement, d'isolement individualiste. Et des expressions qui reviennent, qui sont caractéristiques, là encore, pas seulement de petites lubies intellectuelles, voyez, mais de choses vécues et partagées. Donc ce changement de style, de climat spirituel, je dirais, c'est un peu la dernière partie de mon intervention, il a des points communs, des traits saillants, qui se retrouvent tous, en tout cas, dans un aspect particulier, je disais à l'instant prendre soin de la fragilité. Donc c'est cette mise en lumière nouvelle une nouvelle manière de comprendre l'option préférentielle pour les pauvres. Cette omission, cet agenda inachevé de Gaudium et Spes, qui avait donné des principes mais qui ne les avait pas explicités, eh bien le pape François attrape cette balle au bon et va orienter sa prédication là-dessus, sur cet aspect-là. Je désire une église pauvre pour les pauvres. Évidemment, là aussi, on peut le comprendre comme un simple slogan. Bah oui, il est argentin, c'est la théologie de la libération d'Amérique latine, c'est un slogan. Mais on peut aussi essayer de comprendre d'une manière vraiment théologique quel est le contenu de cet appel, de ce désir du pape. Je désire une église pauvre pour les pauvres. Trois traits saillants. D'abord, une église qui doit sortir. Je n'ai pas besoin de développer beaucoup, parce que je pense que vous-même, c'est des choses que, si vous suivez un peu l'enseignement du pape, c'est des choses qu'il répète souvent. Une église qui doit sortir aux périphéries et qui doit refléter le visage de la miséricorde de Dieu. Ben oui, on comprend. Vous voyez, si on revient toujours à ces quatre principes que je vous ai donnés, je crois vraiment que c'est la clé de compréhension. Si la réalité est supérieure à l'idée, si le tout est supérieur à la partie, eh bien alors, vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une pastorale de la rencontre. La réalité est supérieure à l'idée. Pour parler aux gens, il faut aller les rencontrer réellement. Et donc l'Église doit sortir. Pas seulement ouvrir les portes, ce qui est déjà pas mal, quand on voit beaucoup d'églises fermées, donc, mais pas seulement ouvrir les portes et attendre que les gens viennent, mais audacieusement aller jusqu'à eux. Rejoindre tout homme. Et pas seulement parce qu'on a un message à lui donner, ou pire, à lui imposer, mais parce qu'on s'intéresse vraiment à ce qu'il vit. Parce que Dieu veut le salut de tout homme, Dieu a un regard unique sur chaque homme. Et donc l'Église, le chrétien, eh bien, c'est celui qui a un intérêt réel pour ce que vit l'humanité d'aujourd'hui. Ça, c'est très fort dans Gaudium et Spes. Et le pape donne un visage, en fait, à cette attention concrète à la personne de l'autre. Il ne s'agit pas de... Il le dit souvent, ne comprenez pas mal des paroles. Mes paroles, il ne s'agit pas de courir en tous sens, il ne s'agit pas de virer dans l'activisme humanitaire. Mais il s'agit vraiment de cultiver une compassion théologale, un amour vrai, un souci de l'autre. C'est ça, la pastorale de la rencontre. Alors avec les expressions caractéristiques qu'on lui connaît, toucher la chair du Christ dans les pauvres, c'est la chair du Christ qu'on va soigner, qu'on va consoler, qu'on va caresser, qu'on va guérir. Et alors il est très très net là-dessus. Pour lui, cet amour concret du prochain, que vous trouvez déjà évidemment dans l'Évangile, de nombreuses reprises. Pensez à Matthieu 25, ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, puis les autres, vous ne l'avez pas fait. Donc, toucher le Christ dans la personne du frère, du pauvre, ça n'est pas, vous voyez, un bénévolat superflu pour les chrétiens qui ont du temps. C'est cet amour seul, là c'est le pape, c'est cet amour seul qui ouvrira aux croyants les portes du ciel. Je vous cite un passage de son discours aux prêtres de Rome en 2014, à la fin, qui parle aux prêtres en plus, à la fin nous serons jugés sur la façon dont nous aurons su nous approcher de toute chair. C'est Isaïe qui le dit. Oui, le pape se protège. C'est Isaïe qui le dit, c'est pas moi. N'aie pas honte de la chair de ton frère. À la fin des temps, ne sera admis à contempler la chair crucifiée et glorifiée du Christ que celui qui n'aura pas eu honte de la chair de son frère blessé et exclu. C'est le message déjà des prophètes dès l'Ancien Testament. Et donc pour ça, et là encore il continue à s'adresser d'abord aux prêtres, même si c'est vrai pour tout chrétien, eh bien il faut avoir un cœur qui s'émeut, un cœur de compassion, un cœur sensible, c'est le bon samaritain de la parabole. Dans ce même discours aux prêtres, il disait, d'une manière un peu, non pas provocante, mais en tout cas forte, « Chers confrères, je vous le demande, connaissez-vous les blessures de vos paroissiens? Est-ce que vous les devinez? Est-ce que vous êtes proche d'eux? Combien d'entre nous pleurent devant la souffrance d'un enfant, devant la destruction d'une famille, devant tant de personnes qui ne trouvent pas le chemin? Les larmes du prêtre. Est-ce que tu pleures? Ou bien avons-nous perdu nos larmes dans ce presbytérium? Est-ce que tu sais encore pleurer pour ton peuple? C'est fort, hein, comme manière d'interpeller le prêtre. Hein. Voilà. Est-ce que tu sais pleurer pour ton peuple devant les blessures de tes paroissiens? Donc ça, pour le pape, vous voyez, cette attention, cette compassion, ça n'est pas une option d'abord sociale, économique, humanitaire, c'est vraiment une option christologique, théologique. Donc ça, c'est le premier point. Hein, une église qui doit sortir aux périphéries et refléter le visage de la compassion de Dieu. Deuxième point, hein, commencer la réforme par soi-même. Et pas par l'autre, par soi-même, ça veut dire par le pape. Il commence par lui-même quand il en parle, hein, par soi-même. Donc sans cesse, il revient aux fondamentaux de l'évangile. Hein. Il appelle à une conversion très, très quotidienne, très concrète, avec des images très parlantes. Par exemple, il va dire, mais arrêtez les murmures et les commérages, il va appeler ça le terrorisme des mots. Tu es un terroriste si tu vas raconter si tu vas parler de ton frère avec un autre, si tu vas calomnier, médire. C'est du terrorisme en parole. Une conversion très concrète et quotidienne pour chacun d'entre nous. Autre lieu de conversion, avoir un visage qui reflète la joie chrétienne et non pas, comme il dit, un visage de piment vinaigré. Hein, il a dit au moins 4 ou 5 fois ça. Vivre pauvrement, sobrement, hein, ça ne veut pas dire dans la misère, mais sobrement. Se contenter de ce qu'on a sans désirer avoir toujours plus. Et là, il va dire, n'oubliez pas, un linceul n'a pas de poche. Vous n'emporterez pas au ciel ce que vous aurez amassé. Mais donc toujours des images très concrètes qui appellent à une conversion de vie sur un point ordinaire. Vous voyez, il n'appelle pas à rêver de choses extraordinaires, mais il dit, c'est dans ta famille, c'est sur ton lieu de travail, c'est avec celui avec qui tu ne t'es pas encore réconcilié, hein, que ta conversion doit commencer. Sur ton visage, dans tes poches. Et puis enfin, il a même fait comme ça un discours de vœux à la curie, je crois que c'est en 2014, vous savez, le discours de Noël pour souhaiter les vœux, etc. C'était un discours sur les maladies de la curie, un catalogue de toutes les maladies qui menacent plus spécialement les membres de la curie romaine. Alors, il y en avait 14 ou 15, je crois, je ne connais pas toutes de tête, mais la maladie de se croire indispensable, la maladie, etc., de se croire au-dessus des autres, la maladie de l'individualisme, hein, oui. Là aussi des lieux très concrets. Donc commencer la conversion, la réforme de l'Église par son propre cœur et par des choses non pas, vous voyez, qui ne me concernent pas, hein, parce que convertir des choses abstraites, non, vraiment par les lieux de mon cœur qui ne sont pas encore vraiment chrétiens, hein, qui ne sont pas évangélisés. Et puis enfin, troisième point saillant, je crois important, hein. Donc il ne va pas seulement parler de l'amour du pauvre ou du geste de charité qu'on peut avoir avec son voisin blessé, hein, mais il va dénoncer les structures qui entretiennent l'injustice et la pauvreté. Hein. Là, je crois que dans cette mise en lumière nouvelle de l'option préférentielle pour les pauvres, le pape François a une parole forte pour les gouvernants. Il ne s'adresse pas seulement aux chrétiens en disant « soyez charitables avec les pauvres ». Il va vraiment dénoncer les structures, hein, qui, au niveau de l'économie, de la politique, entretiennent et sont responsables de situations de pauvreté à grande échelle. C'est comme ça que, par exemple, dans la joie de l'Évangile, le pape va dire plusieurs noms, hein, des noms, points d'exclamation, très forts. Hein. Je vous en cite quelques-uns. Non à une économie de l'exclusion et de la disparité sociale, parce que cette économie tue, en créant des exclus, des déchets et des restes. L'injustice est la racine des maux sociaux. Ailleurs, il dit encore non au fétichisme de l'argent et à la dictature de l'économie sans visage et sans objectif véritablement humain. Non à un système social et économique injuste à sa racine, non à des idéologies qui défendent l'autonomie absolue des marchés et de la spéculation financière, non à une corruption ramifiée et à une évasion fiscale égoïste qui ont atteint des dimensions mondiales, non à une globalisation de l'indifférence, etc. Vous voyez, donc vous voyez, il ne s'agit pas du tout de refuser l'économie de marché ou la libre entreprise, hein, ce n'est pas ça, mais de s'opposer à une sorte d'idéologie néolibérale qui défend une absolutisation du marché, hein, qui le convertit en fin et non en moyen. Hein, donc c'est l'hégémonie des finances par rapport au capital, etc. Ou par rapport au travail, hein, aux travailleurs. Donc une dénonciation de l'injustice à sa racine. Hein. Et là encore, je crois qu'il faut y voir beaucoup plus que, vous voyez, la parole de quelqu'un qui est bien sûr imprégné de toute la théologie de l'Amérique latine, hein, qui a évidemment porté son attention sur cette défense du plus pauvre face au riche qui est forcément méchant. Hein. C'est beaucoup plus que ça, hein, le propos du pape. C'est vraiment de dénoncer des injustices à la racine et d'appeler à retrouver une économie, une politique qui soit au service de la dignité et du bien de la personne, plutôt que d'annexer, vous voyez, la personne à des structures de pouvoir. Donc là, je crois qu'on peut aussi saluer chez le pape François la force, hein, d'une parole de l'Église particulièrement forte, inédite même, je crois, hein, par rapport au monde et où il est vraiment écouté. Enfin, c'est intéressant de voir, par exemple, même Laudato Si, l'impact que cette encyclique sur l'écologie, qui n'est quand même pas normalement le domaine dans lequel l'Église prend la parole de la manière la plus fréquente, hein, bien de voir l'impact de cette encyclique où des maires, M-A-I-R-E-S, hein, par exemple, se sont réunis pour étudier cette encyclique, la prendre en compte, voir comment l'appliquer, parce que c'est une parole qui a du poids. Pas forcément, vous voyez, directement pour le message chrétien qu'elle va véhiculer, mais pour le message des valeurs humaines, hein, de la promotion de le vrai bien, de la création, de chaque culture, de chaque peuple et de tout homme. Et cette parole est entendue parfois plus à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur. C'est intéressant de voir cette influence de... Alors Jean-Paul II aussi a eu effectivement une très grande aura, un grand rayonnement aussi, hein, au-delà des frontières de l'Église. Et le pape François l'a d'une toute autre manière. Hein. Voilà, c'est une présentation sûrement très incomplète, mais enfin en tout cas, nous avons découvert ce... Voilà. Je vous remercie pour votre assiduité tout au long de ce semestre et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.